touched the lives of nearly 400 cancer survivors within 8 months, helped match orphan patients with family doctors within their community, and supported patients at the end of their cancer treatments. Up until recently, I held a position as assistant for this program, but now where I stand, I am deeply saddened that this program has been suspended, not due to a lack of funding, as reported, but due to internal bickering, bureaucracy, and politics. Recently, management has even suspended the end-of-treatment education sessions offered to patients and families. These sessions were delivered by our survivorship lead doctor. They were free, and most importantly, deeply appreciated by the patients who attended them. Today, where I stand this evening, as a 27-year-old two-time cancer survivor, to stress to all of you that if I had had access to a survivorship program as part of my own cancer care, I would have been much better prepared to deal with the issues that I'm still dealing with in my own life at this very moment. So, Chairman and the Board, I politely ask on behalf of our Cancer Care Mission Patients Committee, as you enter your new mandate as board members, that the provision of survivorship services be included as a priority agenda at our institution, just like it is at other top-ranking institutions with the cancer care mandate. So, with that said, please do not let our institution get left behind, and most importantly, do not let cancer survivors down. Thank you.
Merci, M. Williams. Encore une fois, s'il vous plaît, si possible, d'éviter des statements. C'est une période de questions, c'est prévu comme ça dans la loi. Je comprends qu'il n'y a pas de questions ici, c'est un statement. Je ne sais pas s'il n'y a pas de réaction à avoir ici. Donc, on passerait immédiatement à la deuxième question qui nous vient de Doug Burns. Donc, Doug.
Good evening. I'm Douglas Burns, and I have been a patient for many years, many times. I'm also representing the Patients Committee of the NUHC, and these questions relate to the role of the patients in the direction of the hospital. Question one is, what is the status of the search and selection process for the new CEO, and what measures will the board take to ensure that the voice of the patients are included in the selection of the new CEO as we seek a patient-centered director general and CEO specific criteria? In other words, to ensure that there will be a patient representative on the selection committee for the new CEO from the users committee. Question two, deals with Montreal Children's. Montreal Children's Hospital, McGill University Health Center, is a university hospital with tertiary quaternary care designation, committed to helping children and their families maintain health and well-being through the specialized and ultra-specialized clinical care, education, awareness, and innovation. The diagnosis, treatment, and monitoring of children with complex issues and significant comorbidities requires the interdisciplinary expertise of several specialties to properly conduct the course of treatment and follow-up planning, including the transition to adult care.
Can we go to the question?
The cultural diversity of immigrants and refugees, the mental health of the family, single parenthood, homelessness are examples of our city's characteristics that accentuate the vulnerability of the development of the sick children for only MCH care. Of particular note, the challenge of caring for children with congenital and complex diseases has increased significantly in the last 20 years and has completely changed the functioning of our hospital. Nearly half of our hospital beds have become intensive care units. It is a clientele at high risk of prolonged and repeated hospitalization. Although these children are less than 10% of the pediatric population, they consume nearly 80% of pediatric health care costs, and 75% of them will live beyond adulthood. Given all this, what measures will be or have been taken to ensure that the pediatric mission of the MUEC has a voice on the board.
So your first question is about the CEO and the process of searching for a CEO had to start necessarily by the board learning a little bit more about the MUHC. So this is less than 2 months into our mandate. We have been as diligent as we could with the time that we've had. We have attempted to not lose any time in getting an understanding of what is needed in terms of a CEO. And I asked Dr. Sarah Pritchard to engage in a consultation process, which she has done, has not completed. We had an interim report from her today, and which was quite helpful, but she still has a number of groups and people to meet with. That is essentially the vehicle by which we will understand what are the perspectives of various groups in the hospital, and that's going to be brought directly to the committee, the search committee for the CEO.
Is that open discussion by Dr. Pritchard? Does that contemplate still the opportunity for some representation?
If we had representation from every group, it would be a large committee, so that doesn't really work. The voice will still be available and will be coming through Dr. Pritchard. And she's a pretty, if you've met with Dr. Pritchard, you will be very satisfied with the quality of the inquiry that she will be providing, and the feedback to the board has been excellent today. So we're very comfortable with that process.
No, on the children's.
The second question, it's my understanding that we are representatives, you and I, on the CSCA, and it's my intention to participate in those meetings. I think that's one method for us to be apprised of the issues that are facing the CSCA, and we are certainly welcome, although we're a new board and there's a lot on our agenda. We would welcome any presentations that the CSCA would be prepared to make to the board of directors.
The third question comes to us from Emmanuel Colifas. Yes, thank you.
Good evening, Chairman, members of the board. I'm Emmanuel Colifas, and the question I have is on behalf of the Glenn RBH Patients Committee. I will read you a short preamble. It has been 2.5 years since the RBH has moved into the Glen site. Some of the important deficiencies in the building that affect patient and visitor accessibility and safety are proper reception areas with staff information desks, staff information desk at both the RC level and the S1 level of the RBH entrances. Bathrooms that are accessible to people with limited mobility. Signage that is easy to read and understand for wayfinding. Doors that are easy to open. Currently, doors require excessive forceful opening. And public waiting areas with adequate seating. A professional consultation initiated by the Patients Committee and well received by Technical Services with proposed prioritized solutions for these deficiencies was recently completed. The question is, what measures will the board take to expedite and ensure the correction of these deficiencies and relieve the desperate situation that patients regularly have to face?
That's actually not something that the board has got the power to do, but the PDG would be, I think, better equipped to respond to that.
Madame Lafranco, qui est la directrice du service technique de la qualification technique, qui est la programme de la location. Bonjour, merci pour la question.
I had the pleasure to meet with Emmanuel, Victor, and the Glenn RVH Patients Committee just a few weeks ago, and we meet with them on a regular basis to address these important issues. I'm happy to report, and I think I did report that the management team has made a decision to staff the reception desk at the main entrance of the Royal Victoria Hospital. So that will be very forthcoming because
It started this week.
And we thank our volunteers who have been working very, very hard to assist patients and visitors through both the main and all of the entrances of the Glen site. With the building of a new hospital such as the Glen site, there are many issues that have to be dealt with. While all of the construction met all of the construction requirements, there are areas such as some of the public bathrooms and such as the doors, as Emmanuel has stated, that for certain populations become very difficult to manage and are less functional than we hope for. So we did mandate a professor from the University of Montreal, who is an interior design professor who's also associated with the Centre de Recherche en Réhabilitation, to do an independent assessment for us, to help us prioritize and guide us through which of the areas that we needed to put some more attention, and one of them was to staff the reception desk, which we already promptly put in place. So that report was deposited to management. An action plan has been put in place, and we are in the process of prioritizing those actions so that we can implement that. I will give regular reports to our management team on how that is evolving. We have automated many doors already, and I'm happy to report back to the Glen RVH Patients Committee on a regular basis.
Merci. La prochaine question nous vient de Sandra Etienne. Sandra.
Le 14 juin dernier, la DPS a déposé une lettre au CA en lien avec le climat de travail. Depuis, nous avons été convoqués à une rencontre de suivi par les ressources humaines et nous avons fait nos devoirs et en date d'aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais rien n'a changé. Les demandes d'aménagement de travail et de congés conventionnés sont toujours refusées par certains représentants d'employeurs sans motif valable. Par exemple, on leur mentionne que congé conventionné est incompatible avec leur département. Bref, les réponses que nous avons reçues jusqu'à hier ne reflètent malheureusement pas la réalité du terrain. Le syndicat continue à recevoir des témoignages des gens qui sont épuisés. Nous vous assurons que nous voulons collaborer. Toutefois, on nous dit que différentes actions ont été entreprises pour améliorer le climat de travail et que la situation continue à se dégrader, pour ne pas dire empirer sur le terrain. Les membres, tout comme ses représentants, se questionnent sur la connexion de la direction avec le terrain et sa volonté de s'éloigner. Donc, ce qui amène ma question en date d'aujourd'hui. Nous réitérons la question qui avait été posée le 14 juin dernier. Quelles sont les mesures que le CSM compte prendre afin de contrer la surcharge de travail et l'épuisement professionnel de la catégorie 4 pour améliorer le climat de travail? Merci.
Pour la question, je vais demander à Richard Paillé de parler du plan qui est mis en place et les mesures de suivi qu'on entend.
On a, Madame Etienne, vous le savez, on s'est rencontrés en septembre. On a répondu formellement aussi à la lettre du 14 juin. Il y a des mesures qui sont prises dans plusieurs secteurs où vos membres sont présents, que ce soit du côté de la nutrition, de l'ergothérapie, et ainsi de suite. Il y a des mesures qui se développent aussi avec les employés. Donc, on fait des sondages, suite à votre suggestion, avec les employés pour aller voir leur input pour savoir comment améliorer ça. Il est clair qu'on est à la recherche d'un partenariat, comme vous l'offrez, pour que les gens travaillent ensemble pour trouver des solutions ensemble. Ça prend de la collaboration des deux côtés. Ce qui nous inquiète en ce moment, puis on vous a interpellé là-dessus, c'est que, en dépit des sondages, il n'y a à peu près personne qui veut répondre. On se questionne même si c'est un mot d'ordre ou ainsi de suite. Donc, on essaye d'essayer de neutraliser ça pour qu'ensemble, on trouve des solutions. La main tendue du 25 septembre comme aujourd'hui, continue. On veut améliorer le climat de travail. Il y a tout un sondage, vous le savez, on a discuté à plusieurs occasions, qui a été fait à l'échelle du CESM. Ce sondage-là et les mesures de communication et de concertation avec les employés pour développer des plans d'action vont se déployer dans les prochaines semaines, les prochains mois, de façon à ce que le plan d'action global pour le CESM, pour l'amélioration du climat de travail, soit adopté au printemps prochain. Pour ce qui est de la surcharge de travail, vous le savez, il est très clair dans la convention collective, s'il y a des enjeux de surcharge de travail, il y a des analyses sectorielles qui se font et on est ouvert, bien entendu, à regarder ces éléments-là avec vous. La prochaine question nous vient de Maureen Carley concernant l'accès au métro. Maureen?
Thank you, Mr. Kahi. I'm Dr. Maureen Kiley, and I'm a member of the RDA's Patients Committee. I'm also a member of the Consultation of Dr. Cartier and past president of the Westmount Municipal Association. My question this evening concerns handicapped accessibility between the Glen site and the Bendel Metro Station. 9 bus routes equipped with low-floor buses currently stop at the Bendel Metro Station. Thus, many handicapped persons, those with limited mobility, the elderly, as well as patients with parents with young children, arrive at the Bendel station on a daily basis. Unfortunately, until the second edicule is completed, these people have no easy access to the Glen site. The STM is projecting that the second entrance will be open in the winter of 2020. Last March, at the public consultation, which was held by the STM, the RBH Patients Committee submitted a formal report requesting that until the second entrance is a reality, that the STM provide handicapped accessible transportation from the Vendome station directly to the front entrance of the RBH. The Consultation Intercartier, composed of community groups from NDG, Westmount, and Denali, made a similar request in its report. Subsequently, the commissioners, who were independent, in their report, recommendation number 5, page 24, recommended that such a service be provided. To date, the STM has steadfastly resisted acting upon the commissioners' recommendation number 5. For the handicapped, the elderly, those with limited mobility, and parents of young children, using public transit can be challenging and sometimes in the winter months downright dangerous. Accordingly, as winter is now upon us, I respectfully request that the MUHC Board of Directors interact with the STM and with the Borough Councils of NDG and the Sud-West as well as the City of Westmount to ensure safe and easy access to the Glen site for those most in need of assistance. Thank you.
Oui. En fait, il y a eu une lettre qui a été transmise suite à la dernière intervention du RVH Patients Committee to the STM, which they replied to, probably not to your satisfaction because you're asking the question again. There are two new elements of discussions currently. Obviously, everybody knows that there's the dedicated service of bus 177 that come from Lionel Group. So the solution that was taken at the time between the STM and the MUHC was to dedicate transit for handicapped people via Lionel Group. So that has been the solution. Lionel Group is a fully accessible station, and the bus has a dedicated route to the MUHC. So that's action number one. Action number two, and it's a related strategy, is we have a request from our Lachine patients that want to come to the MUHC, that have to come to the MUHC for consults here. So we've requested from the STM to have bus 90 do a loop between Vendôme, the Glen site, and the station. So this is currently being assessed. We have not received yet, to my knowledge anyway, a response from the STM, but that would be an alternative. Currently, again, the best solution is Lionel Grou with bus 177 that drops patients right in front of the hospital.
Mr. Fahmy, may I respond to that? That's exactly what we're trying to get. We wanted some kind of an addition on one of the routes into the hospital, because what people have to realize is the corner of Claremont and the Maisonneuve is going to be a three-ring circus once they really start construction.
Yeah.
There's going to, you will not be able to get through. And that bus, the 77, is great. If you're coming from somewhere else and you come into the Lionel Grou Metro, there's no problem. It works very well. But for somebody coming in on a 90 or the 90 will come right to the door, then if they go the other way, it's about another 30 minutes, 45 minutes. Our people have done it. So if they go through the Lionel Grou. So it's not a solution. What we need is something for those 9 low-floor bus routes that are coming in to the station. And the STM has to be made aware that they're causing a lot of hardship to many, many, many people.
I'm telling you what the MUHE has done. Obviously, the transit is the responsibility of the STM, so there's limited capacity for us to change that. We influence and we send letter, we request the change of the 90, so we're waiting for that.
Yeah.
Dernière question nous vient de Pierre Hurtaud du comité des usagers. Monsieur Hurtaud.
Alors bonsoir, mon nom est Pierre Hurtaud, je suis membre du comité des usagers, je suis également vice-président du conseil de protection des malades du Québec. Avant de poser mes questions, qui sont très courtes, très simples, j'aimerais suggérer au Dr. Mazur de poser sa candidature comme futur PDG du CUSUM, quand on considère tous les accomplissements qu'il a réalisés, je pense que c'est un candidat idéal. Bon, alors, voici pour mes questions, elles sont courtes, elles s'adressent spécifiquement au président du conseil. Elles sont basées sur un article de loi dont je vous épargne le numéro, qui définit les devoirs et les obligations d'un conseil d'administration. Alors les questions sont simples. Que fera le conseil d'administration pour inclure à toutes les étapes le comité des usagers dans la définition des orientations stratégiques du CUSUM qui doivent porter sur les besoins de santé des usagers? Quel plan concret a-t-il pour s'assurer que les droits des usagers, notamment ce qui concerne une situation pas trop reluisante de l'accessibilité aux chirurgies, pour que ces droits, entre autres celui-là, soient respectés?
Merci.
Je vais demander à Mathieu de se prononcer sur la question des droits qui m'échappe, je vais vous dire, pour le moment. Mais au niveau de la stratégie, je pense qu'il y a un document stratégique a été élaboré par le conseil en arrière. Et pour le moment, nous n'avons pas embarqué dans un processus de revoir ce document. Cette stratégie, nous l'avons consultée, nous le trouvons intéressant. Je dois vous avouer qu'on a plein de choses sur la planche et de revoir quelque chose qui nous paraît bon n'est pas encore sur la liste des priorités. Ça répondrait peut-être pas bien à votre question, mais c'est. On a un plan, il y a un plan bleu de vue, et c'est un plan qu'on...
La question portait, non pas si je peux me permettre, qu'elle portait pas à savoir s'il y a un plan ou non, c'est de savoir de quelle façon vous allez inclure le comité des usagers dans la réalisation de ce plan-là?
Alors, le conseil d'administration n'est pas responsable de faire le plan stratégique. Ça vient de la gérance et c'est approuvé par un conseil. Alors, nous allons. Merci. Deuxième.
Monsieur Hurtault est préoccupé par les temps d'attente en chirurgie, particulièrement les chirurgies oncologiques. Et il a tout à fait raison de dire qu'au CESM, il y a une attention qui doit être portée particulièrement à ces listes d'attente-là, qui sont plus longues que nous le voulons, le souhaitons. L'enjeu principal, c'est le nombre de lits disponibles pour admettre les patients. On comprend que ce sont des chirurgies complexes, donc les patients doivent être admis. Après la chirurgie, la plupart d'entre elles ne sont pas des chirurgies du jour. Je pense que je peux dire ça. Mm-hmm. Le travail est fait avec la région de Montréal, qui a reçu une assistance du ministère de la Santé et des Services sociaux pour offrir des alternatives pour que les patients aient un niveau de soins alternatifs, donc des patients qui sont prêts à partir du CPSM, mais qui ne peuvent pas retourner à la maison, aient un lieu. Ou aller ensuite, soit pour faire de la réadaptation, de la convalescence, ou alors un établissement de soins prolongés. C'est un projet qui a été élaboré, accepté et qui est en déploiement. Comme je le dis à mes collègues du réseau et au ministère, nous avons fait notre transformation en 2015 et le plan qui est excellent. On va être déployé dans les années à venir. Alors on a un enjeu en ce moment. Pour ce qui est de la longue durée, nous avons eu, vous rappelez, une unité temporaire à l'hôpital général, qui avait donné le temps à nos partenaires, particulièrement du sud-centre-ouest et du sud-ouest, de s'organiser pour avoir une meilleure capacité d'accueil de nos patients. Et en effet, ils ont amélioré cet aspect-là. Il y a encore beaucoup de patients qui attendent la réadaptation et c'est un enjeu qu'ils regardent aussi. Nous leur avons demandé à eux, comme au ministère, de regarder des plans de transition. On a eu aujourd'hui même une rencontre avec le sous-ministre, plusieurs sous-ministres associés, en fait, ils étaient trois. Et pour parler de la santé mentale, il y a des annonces qui vont être faites incessamment. Il y a un plan pour libérer les lits de santé mentale à l'hôpital général qui va permettre d'admettre les patients. Ça n'a pas un lien direct dans ce cas-ci pour la chirurgie, mais on a des patients qui attendent trop longtemps à l'urgence pour être admis. Et il y a des solutions de ce côté-là qui ont été annoncées aujourd'hui et on pourra vous en donner les détails dans les jours qui viennent. Alors, les choses avancent, pas à la vitesse qu'on le voudrait. Nos équipes sont prêtes. Il y a des chirurgiens qui veulent opérer davantage. Les unités de soins préfèrent travailler avec des patients qui ont besoin d'être avec nous. Et les patients qui ont terminé préfèrent être chez eux après avoir fait la réadaptation ou être dans le bon milieu. Et on n'arrive pas à le faire aussi vite que possible. Mais je considère, M. Hurtault, que c'est notre priorité numéro 1 au niveau de la clinique, parce que c'est tout l'aspect de l'accès et d'offrir les soins en temps opportun. Alors, c'est la priorité. On partage nos préoccupations au plus haut point.
Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre soirée, notre Assemblée générale annuelle. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation. Et bon retour à la maison.